Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour cette table ronde. Donc, ce qui concerne aujourd'hui les femmes de la bite-lite, toutes des tueuses. Alors, j'avoue, quand on m'a proposé la table ronde, j'ai eu très peur parce que vous voyez, il y a que des femmes ici. Je me suis demandé si j'allais en ressortir vivant. Enfin, je l'espère. Alors, voilà. Et je sais que les quatre auteurs sont toutes très dangereuses, plus les unes que les autres. Alors, à côté de moi, parce qu'elle m'en veut beaucoup, non, je plaisante. Pas encore, mais elle attend mes questions. Donc, à côté de moi, Marika Galman, que l'on connaît pour sa série Mévé Regan, donc trois volumes déjà chez Milady, donc le dernier est La Dent Longue. Notre amie américaine Alexandra Evi, que nous connaissons pour sa série Les Gardiens de l'Éternité chez Milady, 8 volumes parus en français aujourd'hui, le dernier étant Arial. Cindy Mesny, qui vient d'entamer une série qui s'appelle Néphir, chez J'ai lu dans la collection Dark Light, et dont le premier volume déjà paru est Ex Tenebris. Et enfin Cassandra O'Donnell, que nous connaissons pour sa série Rebecca Keane, aussi chez J'ai lu. Et donc, 4 volumes de parus aujourd'hui, dont le dernier est Ancestral. Voilà, et comme le dit Marika Galman, comme c'est la plus dangereuse, je l'ai mis loin là-bas. Et j'avoue, parce qu'on va commencer tout de suite, c'est qu'en fait, ce qui m'a frappé en lisant ces quatre séries différentes, c'est qu'effectivement, dans la bite-lite, les héroïnes sont quand même, en général, des femmes qui sont, disons, fortes, puissantes, qui ont des dons. Et puis, au milieu, on a Alexandra Evi. Et dans les séries Les Gardiens de l'Éternité, d'abord, ce sont que des noms d'hommes, les titres, ce sont que des hommes. Et les femmes sont peut-être un peu différentes. Alors, pour commencer tout de suite la table ronde, commençons peut-être par les femmes tueuses et psychopathes. Marika Galman, Mévé Regan, c'est quand même une femme assez forte. Hein. Alors peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas, peut-être si vous pouvez poser un tout petit peu l'univers d'abord.
Alors c'est une hybride vampire-mage. Qui a un caractère bien trempé et qui se retrouve malgré elle poursuivie et recherchée par des vampires parce qu'elle serait la clé d'une prophétie, car elle serait la seule à avoir tué son père qui est le vampire le plus dangereux au monde en fait, dont elle ne connaissait pas. Donc elle se retrouve malgré elle dans tout plein de péripéties. Et les vampires c'était pas trop son truc avant, elle ne croyait pas.
Et puis c'est une jeune étudiante au début.
Elle est adorable, c'est une élève soignée qui va tout le temps en cours, qui ne sort pas, qui ne boit pas, qui ne ramène jamais personne chez elle. Donc en sachant qu'elle fait exactement l'inverse.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une bonne bagarreuse qui a bien sa place au bar.
Ah, disons qu'il vaut mieux pas lui piquer sans ta journée. C'est un peu ça.
Donc, une jeune fille moderne.
Exactement. Je vais dire exactement, mais j'espère qu'elles ne seront pas toutes comme ça et qu'elles ne seront pas toutes comme ça, parce que c'est plutôt un exemple à ne pas suivre, mais peut-être le genre d'héroïne qu'on lit et à laquelle on aimerait plus ressembler, parce qu'il y a des fois, on a le sens d'attendre des choses, d'agir d'une certaine manière, et elle le fait.
Alors, je rappelle, moi, je ne suis que le messager. Hein. chez vous, Cindy Mesny, avec Némésis, alors là, on rentre, on passe à un stade nettement au-dessus hein, en matière de psychopathie.
Alors, oui, Némésis, bah, c'est un néphir, une créature que j'ai inventée de toutes pièces, qui, on va dire, est la version vivante d'un zombie. Donc ça donne une idée du personnage déjà. Et oui, effectivement, Némésis, on pourrait la qualifier de psychopathe et de sadique et tout ce qu'on veut, mais c'est une créature et veux dire, c'est pas tout à fait au même niveau, je pense, que Maëv ou Rebecca, quoique Rebecca, on peut dire aussi que voilà, elle est spéciale dans son genre.
Parce que quand même, les néphires, alors vous nous avez dit dans un monde qui se passe en 2017, si je me souviens bien, oui. Hein, puisqu'il est dit au début que c'est 5 ans après que les néphires aient signé un traité de paix quelque part avec les humains. Bon, on en saura peut-être plus dans les volumes à venir, mais vous pourriez peut-être un peu élaborer, parce qu'on est dans un monde très différent, et les néphires qui vivent dans leur réserve, et avec leur réserve d'humains, parce que quand même, la nourriture c'est sérieux, hein, il faut faire attention. Donc peut-être vous pourriez un peu élaborer, parce que vos néphires sont quand même des créatures et tous très étranges et très violentes.
Bah, c'est justement l'idée de base, mon idée de faire Néphir, c'est justement je voulais être du côté du méchant pour une fois, c'est-à-dire de la créature qui n'a pas de remords à se nourrir comme elle a été faite, c'est-à-dire pas comme les vampires qu'on voit actuellement qui ont la peine à accepter leur nature. On ne citera pas de nom, ou comme ça. Et donc, je voulais vraiment créer quelque chose de totalement différent avec une créature issue de mon imagination. Et donc, justement, comme vous l'avez dit, ils vivent dans Newell, qui est l'ancienne cité de New York, et puis ils vivaient là avant, mais cachés. Et ils ont mené une guerre, et ils ont en quelque sorte chassé les humains. Mais pour arrêter cette guerre, ils ont dû trouver un arrangement avec le gouvernement. Et puis le gouvernement a dû faire des compromis. Et donc pour protéger la population, on va dire qu'ils vident leur prison en leur donnant de la nourriture.
Oui, et puis, alors les néphires ne sont pas exactement des vampires, sont des créatures un peu différentes parce qu'ils sont, non seulement ils boivent le sang, mais ils sont aussi anthropophages, ils mangent aussi la chair. Et puis, contrairement à nous, ce qu'on fait dans les abattoirs, quand la nourriture, quand le bétail a eu peur avant de mourir, c'est encore meilleur comme goût.
Oui.
Alors, on joue avec sa nourriture.
Voilà. Bah, c'est tout à fait la notion de psychopathe, sauf que pour eux, bah, c'est tout à fait normal.
Alors,
c'est ça, avec un grand sourire. Vous savez, maintenant, il ne faut pas rester à côté d'eux.
Et j'allais dire, et je vais me faire peut-être haïr encore un peu plus. C'est les chats aussi. Les chats jouent aussi avec leur nourriture.
Oui.
Une souris, c'est bien meilleur quand elle a beaucoup de bruit.
J'ai tendance à dire, des fois, on a tous une part en nous, comme ça, un peu sadique et tout. On la laisse plus ou moins s'exprimer. C'est ma façon de l'exprimer, voilà.
Et chez vous, Cassandra O'Donnell, Rebecca Keys aussi. Assez psychopathe au début, hein.
Ah mais même pas au début, tout le temps. Et le problème, c'est que, à nous entendre, on dirait qu'on est une grande malade. Bon, alors c'est pas le cas. Simplement, non, Rebecca, elle est pas humaine. Donc les valeurs judéo-chrétiennes, le bien, le mal, elle connaît pas. Elle est simplement l'une des élues de la déesse Akmaleon, comme les son peuple, les sorcières de guerre, les Vicaris. Elle tue effectivement sans remords, mais parce qu'il n'y a pas de remords à partir du moment où elle ne sait pas reconnaître le bien du mal. Pour elle, elle a une mission, elle est pragmatique et elle agit. Tuer n'est pas un problème, effectivement. C'est pas quelqu'un qui. On n'est pas vraiment dans l'introspection, elle est toujours dans l'action, dans le mouvement. C'est une jeune femme, déjà c'est une maman, donc c'est un peu différent. Elle a 26 ans. On n'est pas dans le cas de Maëlle, où c'est une jeune fille, etc. Elle, c'est une femme accomplie. Et pour le coup, justement, parce que c'est une femme accomplie, qu'elle est sûre d'elle. Elle a un ego surdimensionné. C'est-à-dire pour elle, c'est pas un problème. Elle a tué n'importe qui. L'important pour elle, c'est de régler les problèmes qui se posent à elle. Donc, elle va, quels que soient les moyens, la torture, l'assassinat, c'est pas du tout un souci. Et effectivement, c'était très difficile de créer un personnage qu'on aime en dépit de. Et non pas parce que. C'est quelqu'un qui a vraiment qui est pas très sympathique de prime abord. Pour le coup, elle a quelques faiblesses qui sont très étrangères à celles d'habitude qui sont dans son clan. Ses faiblesses sont sa fille et puis les amis. Enfin, elle a une amie très très proche qui s'appelle Bess. et elle va créer des liens d'amitié auxquels elle ne s'attend pas. Elle va devenir peut-être pas. En fait, c'est un monstre qui devient petit à petit humain et qui va se laisser imprégner par le monde des humains qu'elle ne connaissait pas. Elle vivait complètement en dehors de cet univers. Et après 10 ans de traque, puisqu'elle est condamnée à mort par son clan, elle apprend ce qu'est l'humanité. Donc effectivement, elle s'adoucit un petit peu, mais ses pouvoirs, eux, augmentent. Donc c'est très très difficile. Il y a une bête qui vit en elle. En plus, elle est vraiment, pour le coup, c'est son côté inhumain. Elle a rien de l'humain type. Donc c'est une guerrière, c'est une magicienne, c'est une guerrière des éléments. Mais en plus, c'est autre chose. Et il y a une bête qui vit à l'intérieur d'elle. Donc c'est le côté animalité et très particulier.
Et puis Rebecca Keane, elle a quand même un gros avantage, c'est que dans le Vermont dans lequel elle vit, où toutes les créatures surnaturelles vivent cachées, contrairement au néphir de Cindy, elle est assaillie, c'est-à-dire en fait, c'est le shérif des créatures surnaturelles, donc comme James Bond, license to kill, elle peut tuer n'importe qui, n'importe comment, et personne ne viendra lui dire quoi que ce soit, grosso modo.
En fait, au départ, elle ne voulait pas, on lui a imposé ce rôle d'assaillim, donc elle est devenue le juge et l'exécuteur. Pour le coup, elle fait plutôt bien son job, et sans problème. Mais c'est quelqu'un qui a une mission à remplir et qui a un grand sens des responsabilités. Donc à partir de ce moment-là, elle fait ce qui doit être fait, ce dont personne ne veut, avec juste, enfin, elle arrive à peu près juste pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a une loi, elle la fait respecter, et quels que soient les moyens à employer. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que justement, les moyens sont parfois un peu particuliers. Alors,
maintenant, je vais me tourner vers Alexandra Haïdi, parce que toute la série des gardiens de l'éternité, nous rentrons là quelque part dans un monde assez différent, parce que Alexandra Haley écrit plutôt ce qu'on qualifie aux États-Unis de paranormal romance, c'est-à-dire des histoires, comme son nom l'indique, des histoires d'amour paranormal. Et donc chaque titre raconte une histoire d'amour. Et Alexandra, parce que votre univers est quand même très complexe, mais on le retrouve de roman en roman, les personnages sont différents, mais de roman en roman, on retrouve un univers général. Donc peut-être pourriez-vous d'abord présenter l'univers dans lequel évoluent vos personnages, avec ces différents clans et tribus de créatures, et puis ensuite on parlera un peu plus des femmes.
My book, The Guardians of Eternity, are centered around a clan of vampires in Chicago, is where it starts. And it, the overall theme of it is the connection of the men and how the vampires deal with the clans, how they deal with the supernatural worlds. But in each book, I add in a female love story, and I try to make them as we are, so that the reader can identify. I think we've all laid in our beds and wished that some yummy vampire would appear on the doorstep for some reason. But then I take an ordinary character and try to put them in extraordinary situations. So they have to grow, they have to change, and I set it in a paranormal world to help along the growth of the female character. But she always starts off as an ordinary person, just like we are, and then over the course of the book, she has to change and become extraordinary.
Alors, dans mon univers, moi, j'ai cherché à décrire un univers de vampires, des histoires qui se déroulent à Chicago. Et ce qui m'intéressait principalement, c'était de décrire les liens qui unissent les vampires entre eux. Donc, c'est des relations d'hommes entre eux. Et se greffe autour de ça une histoire d'amour dans chacun des livres. Et ça, c'était pour que les lecteurs puissent s'identifier à ces situations que je décris. Et je voulais aussi, en fait, je pense que nous avons toutes, soyons honnêtes, nous avons toutes rêvé qu'un beau vampire vienne vers nous la nuit. Et donc, c'est ce que je voulais décrire, en fait, c'était ces beaux vampires dans l'âme des femmes. Donc, dans mes romans, il y a toujours des femmes ordinaires, des femmes normales qui sont confrontées à des situations extraordinaires, et ces situations extraordinaires les aident à se révéler à elles-mêmes. Donc c'est un monde paranormal, mais ce sont des femmes ordinaires qui se retrouvent dans ce monde paranormal et ensuite elles découvrent leur nature extraordinaire dans des situations extraordinaires.
Oui, parce qu'en fait, elles sont quand même, malgré tout, même si ce sont peut-être de plus faibles femmes que les héroïnes de trois autres auteurs, il y en a quand même certaines. Elles ne sont pas tout à fait des femmes ordinaires. Hein. Dans Viper, c'est un demi-démon. Dans Arial, qui est le dernier sorti, il y a quand même le personnage de Morgan Le Fay qui torture atrocement ce malheureux Arial. Alors il y en a certaines qui sont des faibles créatures, puis il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus méchantes malgré tout.
We call him Kick-Ass. And I like to explore the idea of some women who are already very strong, and then some women who learn their strength, and not because of the male, but because of life and because of what's inside them, they grow and they become stronger because it's a woman's journey through the book. It's the titles are about the males, but the book is always about the woman's journey. Finding herself, becoming stronger, and finding her place in the world.
Alors bon, ces personnages, moi je les définirais comme kick-ass. Alors là, kick-ass, je ne sais pas si on peut trop dire ça. Bon, ce sont des femmes fortes, des gens...
Qui bottent le cul des mecs.
Bah, qui bottent le cul des mecs, voilà. C'est très bien dit. Très bien dit, je note. Et donc, ce sont des femmes qui explorent en fait leur potentiel. Et moi, je décris des femmes qui sont parfois fortes dès le départ, mais aussi des femmes ordinaires, des femmes normales qui apprennent à être fortes, pas nécessairement à cause d'un homme, pas parce qu'un homme vient dans leur vie, entre dans leur vie, mais bien des femmes qui puisent en leur fort intérieur des qualités de force et de courage, et que des femmes qui sont devenues fortes parce que la vie les a rendues fortes, donc pas nécessairement à cause d'un homme. Et souvent, bon, tous mes romans en français en titre le nom d'un homme. Mais l'histoire tourne autour de l'évolution d'une femme qui apprend à s'adapter et qui apprend à devenir forte. Donc même si le titre est le nom d'un homme, l'histoire tourne autour d'une femme et comment elle devient forte.
Alors, justement, ça me permet d'amener la question suivante quelque part. C'est, mesdames, pourquoi avez-vous choisi de créer des héroïnes comme ça aussi puissante, toute douée de pouvoirs extraordinaires. Alors, un peu provocateur, est-ce de la frustration?
Ça en est forcément. Je veux dire, il faut être très clair. Mais ça va, si vous voulez, vous avez eu James Bond, vous avez les San Antonio de Frédéric Dard, vous avez les SAS, vous avez des espions fantastiques, des héros masculins. Et nous, on avait quoi? On était les faire-valoir, on était toujours les potiches. Et pour le coup, forcément, ça nous fait plaisir à nous d'avoir des héroïnes, des femmes déjà qui nous ressemblent par certains côtés aussi, faut être très clair. C'est-à-dire pas seulement c'est pas forcément ce qu'on voudrait devenir, si vous voulez, mais il y a forcément des côtés, on met beaucoup de choses de nous dans nos livres, notre caractère, nos manières de réagir, même notre sens de l'humour, souvent noir. Qu'on donne à nos personnages. Donc oui, forcément, il y a forcément un petit peu de frustration et de revanche. Et en même temps, ce sont des livres qui sont écrits aussi pour les femmes la plupart du temps, il faut être très clair. Et c'est notre propre littérature à nous. Vous avez les romans d'espionnage, les machins, et tout. Ouais. Voilà. Et nous, on avait envie aussi d'avoir nos héroïnes, voilà, et qui étaient capables de faire exactement la même chose que ce que les hommes font et qui l'assument de la même manière. Et pour le coup, il y a eu une évolution ces dernières années. Donc, on est libre, on vit tout à fait différemment. Et ces héroïnes, elles devaient être un peu plus à notre image aujourd'hui de la femme qu'on est.
Alors, tout pareil que Cassandra. Mais aussi, il y a, je pense, ce côté... en ce qui me concerne, j'ai grandi pour une fille. Et c'est clair que si je me retrouvais, moi, confrontée à des vampires, et c'est le type d'héroïne que je voudrais être, celle qui ne se laisse pas faire, celle qui... comme je disais avant... que Maëlle, c'est un petit peu le personnage qui va aller dire les choses que des fois on a envie de dire mais qu'on ne dit pas parce que c'est pas positivement correct. C'est le côté libéré, le côté ce qu'on essaie de gommer dans notre personnalité de tous les jours,
pour être politiquement acceptable, pour être pour être gentil en fait, gentil avec son prochain et pas dire écoute toi franchement. Et c'est ce côté où on se laisse aller. C'est vrai que l'écriture c'est un plaisir, c'est un rêve écrit quelque part. Donc non, on n'est pas nos personnages, mais oui, il y a notre caractère dedans. Et peut-être que si on était toute calme, toute gentille, bon. Cindy est toute calme, toute gentille et elle est toute psychopathe. On ne sait pas.
Cindy, elle est. Ah, nous, moi non, je dis ce que je pense, vraiment, je pense.
Mais Cindy, elle est adorable, elle est adorable.
Mais il y a aussi, donc, moi, ce que j'avais voulu faire avec ce personnage, c'est qu'en général, on a, souvent plutôt des hommes, on a un personnage normal qui avec les événements auxquels il est confronté, devient plus fort au fur et à mesure du roman. Et Maëve, j'ai retrouvé ce que tu disais, que ta Rebecca devient de plus en plus humaine. Et Maëve, c'est pareil, en fait, plus elle bascule dans le fantastique, plus elle devient humaine. Et ce qui m'intéressait avec le personnage, c'était qu'à la fin de son voyage, elle sera humaine, elle sera toujours forte, mais elle aura trouvé cette partie d'humanité, de sensibilité, qui fait qu'elle pourra en fait créer une connexion avec les autres, ce qui au début n'est pas du tout le cas.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Marika comme avec Cassandra, mais je voulais ajouter justement qu'Alexandra avait dit que c'était que les femmes dans ses romans, c'était une façon de montrer comment elles acquièrent la puissance, elles découvrent leur propre force à mesure du roman. Et ben nous, par exemple, Marika ou moi ou Cassandra, on a des héroïnes à la base fortes, ou en tout cas considère par exemple Maëve, elle est humaine, dans le premier roman, on la découvre humaine, mais elle est considérée par les autres comme quelqu'un de fort et tout ça. Et je pense que dans un sens, on montre des personnes qui sont déjà fortes, contrairement à Alexandra, même si on fait en quelque sorte la même chose, on veut montrer qu'une femme peut être tout aussi forte qu'un homme et qu'on a toute quelque chose de fort en nous et qu'on peut le montrer. Je pense que nous, on montre aussi qu'on peut s'autoriser à avoir des failles comme dans nos différents mondes, par exemple dans l'Elfir, et considérer avoir des sentiments humains, c'est considéré comme une faiblesse, mais à mesure de l'histoire, on découvre que finalement, peut-être, c'est aussi une force et que ce qu'on considère dans notre monde comme une faiblesse, finalement, ça peut se révéler être une force et faire quelqu'un, faire de nous quelqu'un de meilleur.
Attention, spoiler. Alexandra.
I actually am older than everyone up here, so. I actually grew up in the days of Rosemary Rogers and Catherine Woodworth, who I loved, but the women throughout were always at the mercy of the situation, and they were always waiting to be rescued. So when I started writing, it was with the decision that no one was waiting to be rescued by some man, that she was going to be able, even if it took her the whole story, she was going to be able to rescue herself. So when I sat down to write my story, in the back of my mind, that was it. No male's rushing in to rescue. It's going to be her learning to rescue herself.
Moi, je suis d'une autre génération, je suis un petit peu plus âgée. Et dans ma génération, en fait, ce que l'on voyait, les femmes dans ce genre de littérature, étaient des femmes qui se retrouvaient prisonnières d'une situation et qui attendaient d'être sauvées par un homme. Et donc moi, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'écrire des romans où une femme pouvait se sauver elle-même, se sortir elle-même d'une situation. Et même s'il fallait tout le roman pour la partir, dans mes romans, la femme, elle finirait par se sauver elle-même.
En fait, moi, dans les miens, c'est plutôt les hommes qui ont du mal à être sauvés. Et pour le coup, effectivement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui attendent d'être sauvés parce qu'ils sont vraiment mal barrés. Mais c'est pas du tout un roman féministe. C'est simplement la manière de dire, parce que dans le cas de Rebecca, par exemple, il y a très très peu de sentiments. Elle est absolument pas romantique pour un sou. Elle est pragmatique, effectivement. ça l'intéresse pas vraiment, les sentiments amoureux ne l'intéressent pas, la relation à l'amour, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Et pour le coup, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'attache pas, qu'elle n'aime pas, voilà. Mais ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas le propre du livre en lui-même, contrairement à ceux d'Alexandra, où là, ce sont des vraies histoires d'amour. C'est la différence entre nos héroïnes, Jean-Luc. C'est qu'il y a des héroïnes où il va y avoir des belles histoires d'amour dans les livres, dans les tomes. Or, je ne sais pas, je n'ai pas fini de lire la série, parce que Cindy, évidemment, dans mes co-premiers tomes, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour Maëve, etc. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas une histoire d'amour. Par exemple, dans Rebecca, ce n'est pas une question d'histoire d'amour. C'est une question de prophétie, c'est une question de pouvoir. C'est une histoire qui est racontée, voilà, comme un livre de fantasy, d'ailleurs, un petit peu. Pour le coup, on n'est pas du tout dans la même chose. Et c'est ce qui est intéressant dans nos personnages, justement, c'est qu'ils n'ont pas besoin non plus des mêmes choses. C'est-à-dire que vos personnages féminins, qui deviennent fortes, qui apprennent à... Voilà, qui changent, qui s'adaptent, qui en fin de compte sont beaucoup plus fortes qu'on imagine. Pour nous, elles doivent être fortes dès le départ parce qu'elles ont une quête à mener. Et cette quête-là, en fait, on a dû créer nos personnages suivant les besoins qu'on avait besoin, dont on avait besoin pour pouvoir poursuivre notre histoire.
Non, je voulais simplement ajouter quand même dans le cadre des Kaki. Le problème, c'est qu'elle s'attache un peu trop à tout le monde. Entre Bruce, Raphaël, Marc...
Elle a de l'amitié. Elle a beaucoup d'amitié, mais elle a une histoire de sexe avec Raphaël, mais elle est capable de lui coller une balle dans le crâne du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du... C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'elle va le faire, de toute façon. Donc, les autres, c'est vraiment de l'amitié pure. Elle crée une famille. Elle crée une famille parce qu'elle a besoin de ses chefs de clan pour une quête bien précise. Et c'est ce qui va changer son destin, justement, la famille qu'elle se crée avec les chefs de clan. Différent. Mais c'est pas du tout, il ne s'agit pas de trio amoureux ou de quatuor ou ce que vous voulez. On n'est pas dans un orchestre amoureux du tout, là. Pour le coup, on est vraiment dans des liens qui se créent, qui sont complètement dehors du sentiment amoureux. Ils sont plus liés au sentiment familial, amical.
Marie-Claire. Pour rebondir dessus, c'est que je pense que nos héroïnes, si jamais le prince charmant arrive sur son beau cheval blanc, elles leur pètent la gueule et elles partent avec le cheval, bruit dans la boue.
Elles n'ont pas le temps.
Non, elles vont refuser l'aide, elles veulent le faire elles-mêmes. Elles sont indépendantes, en fait. Je trouve que c'est une des choses qu'on cherche plus après, justement, tous ces... On n'a pas la même génération, mais on a quand même tout l'héritage. C'est l'homme qui tient la porte, c'est l'homme qui paye, c'est... lui qui protège, c'est le chef de famille, et non, plus maintenant. Ça veut pas dire qu'on va, justement, ça veut pas dire qu'on est féministe et qu'on veut absolument...
Mais l'homme qui paye, c'est bien.
Alors, messieurs, si vous voulez
ça,
un petit Cassandra à manger...
Cindy Mazny, c'est la même chose. La relation entre Némésis et Pinatonel, c'est aussi la même chose.
J'ai envie de dire... Il a 2 siècles, donc lui, il vient d'une époque justement où c'est normal de s'occuper de la femme, que la femme a besoin d'être assistée. Et Némésis, pas du tout. Elle vient de 1900 et quelques, mais elle a évolué avec son monde, et puis elle est vraiment une femme indépendante, elle n'a pas besoin d'aide, elle n'en veut pas, et elle ne veut pas montrer ses faiblesses et tout ça, alors que justement Nathanaël, il est resté accroché à son côté humain, alors qu'elle l'a lâché complètement.
Chez vous aussi, Alexandra et Evie, en général, les vampires masculins, sont souvent des personnages qui ont plusieurs siècles d'existence, qui ont souvent des positions de puissance que dans certains cas ils perdent, et face à des femmes qui les utilisent.
I think the difference of the books between us in America, at least urban fantasy is one, and then paranormal romance. And readers who read paranormal romance expect romance in their books, and urban fantasy is more the story of the female and her journey. But in mine, I like the idea of that the uber alpha male has to learn to deal with a very strong woman. So that's his journey through the book. She has her journey, and his journey is to learn to accept a partner, a soulmate, someone who they, like you said, have to treat as an equal, which if we've been around a few thousand years might be a little more difficult. But so usually the male journey is about developing a relationship with a very strong woman.
Well, aux États-Unis, on fait une énorme différence entre urban fantasy et paranormal romance. Donc, dans urban fantasy, on cherche plutôt l'action, l'évolution des personnages, tandis qu'en paranormal romance, on insiste un petit peu plus sur le côté sentimental ou sur les émotions. Donc, moi, dans mon écriture, ce que je cherche à montrer, en fait, c'est non seulement l'adaptation de la femme qui prend de la force et qui devient forte au fil de l'évolution de l'action, mais aussi l'évolution du mâle alpha. Donc mes hommes sont des hommes qui ont plusieurs centaines d'années, mais qui sont demeurés des hommes un peu machos, et donc s'il faut pour eux, ils doivent s'habituer, ils doivent s'adapter, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter la relation avec la femme, le lien avec la femme, et donc ils doivent, ça c'est leur évolution, leur chemin à parcourir. Et j'aime bien montrer cet aspect-là, c'est-à-dire des hommes qui doivent accepter des relations, mais des relations pas avec n'importe qui, avec des femmes très fortes et très indépendantes.
Alors, pour tester, on commence à avoir une idée plus claire de qui sont vos héroïnes. Et je pense que aussi, comment j'aimerais savoir, et je pense que ça intéresse à tout le monde, moi je l'espère, comment avez-vous décidé de créer vos personnages, de les doter de certains pouvoirs, parce que chacune de vos héroïnes a des pouvoirs très différents les unes des autres. Ce sont toutes des femmes fortes, ce sont leurs points communs, mais elles ont chacune des pouvoirs très différents les unes des autres. Donc comment avez-vous déterminé à l'origine comment allait être votre personnage?
Vraiment la genèse de pourquoi, par exemple moi je me suis dit tout d'un coup ça va être un demi-vampire.
Alors Rebecca Kill est une sorcière de guerre, Némésis est une néphire, donc des personnages différents. Les personnages féminins d'Alexandra sont aussi chacun dotés dans chaque roman de pouvoirs différents. Donc comment avez-vous déterminé cela à l'origine?
Moi c'est quelque chose concrètement très bête. J'ai créé ce personnage qui était donc basiquement un monstre, on va dire, sur beaucoup de points. Elle est un peu difficile à vivre, mais j'ai toujours appelé mon monstre. Et un jour, je me suis dit, elle a rien d'humain. Et après, je me suis dit, ce serait rigolo qu'en fait, elle ait vraiment rien d'humain et qu'à partir du moment où on lui dise, elle ait envie de devenir humaine. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, à la base, j'ai écrit deux livres après avoir lu Twilight et en réaction, on va dire, au personnage de Bella, où j'avais fait vraiment l'opposé de Bella, parce que qu'elle est vraiment pas... Bella est un peu, on va dire, soupolée, et Maëlle, c'est vraiment tout le contraire, mais du coup, c'est beaucoup trop. Et du coup, je me suis retrouvée avec elle et je me suis dit, bah, je vais de toute façon la mettre en face de vampire, donc elle pourrait être vampire, mais j'avais envie aussi d'un autre côté, j'aime beaucoup la magie, du coup, je me suis dit, bah, elle va être un mélange inédit, et elle sera mélangée vampire magie et c'était ce qui m'intéressait de faire ce personnage qui n'était pas du tout humain mais qui à partir du moment où elle l'apprend parce que c'est toujours senti différente mais à partir du moment où elle apprend que c'est vraiment le cas elle veut être comme tout le monde.
Enfin, elle veut être comme tout le monde, ça n'empêche quand même pas de se planter un couteau dans le cœur pour montrer qu'elle est immortelle. Spoiler, désolé.
Non mais Maëlle elle a ce côté au bout d'un moment où elle se rend compte, et c'est quelque chose qui va lui faire très peur d'ailleurs, c'est qu'elle est jeune, et je pense que quand on est jeune, on a ce côté où on se dit, c'est pas qu'on va se dire consciemment qu'on peut pas mourir, mais on n'a pas conscience qu'un jour les choses se terminent. Et elle va se retrouver confrontée à des choses atroces, et il y a ce moment où elle va se dire, mais je risque de mourir, et au moment où elle va se rendre compte que concrètement elle ne peut pas mourir, Ça devient quelque chose où elle a besoin de tester, elle a besoin de provoquer. Comme un enfant qui fait sa crise d'adolescence, d'essayer de repousser la limite, de voir, genre, regardez-moi, je ne peux pas mourir, mais d'un côté,
au moment où elle le fait, elle a peut-être quand même un petit peu l'envie. Elle n'est pas suicidaire, elle n'a pas envie de mourir, mais au moment où elle le fait, c'est vraiment un geste désespéré. Je ne peux pas mourir, je ne suis pas humaine, je ne peux pas mourir. C'est un peu un cri de panique.
Oui. D'ailleurs, il y a de très beaux passages, je me souviens, dans le troisième volume. Alors, que je vous incite à lire, il y a de très beaux passages. Ah, bon, alors, je suis d'accord. Non, mais c'est la manière dont Maeve Regan traite le problème de la mortalité, de l'immortalité. Il y a de très beaux passages, mais je ne vous en dis pas plus.
Mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, justement. Je pense que tu as bien remarqué entre le premier et le troisième, où déjà rien qu'au niveau de elle-même, dans le premier, elle ne voit rien ce qu'il y a autour, les autres personnages qui l'entourent, et ben, du coup, la mort non plus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les tomes avancent, elle commence à voir le monde qui l'entoure, à regarder ce qui se passe, à faire attention aux gens autour d'elle, à faire attention aux choses auxquelles on pense peut-être plus régulièrement, comme. Bah tiens, celui-ci, la balade, elle est bien, ou bien tiens, peut-être qu'un jour je vais mourir, ou comment a-t-il senti cette personne quand je lui ai dit ça? Et du coup, ça, elle devient beaucoup plus profonde, et c'est sans aucun problème. Voilà.
Alors, mesdames, donc, et pour vous, comment avez-vous créé, doté de super pouvoirs aux héroïnes?
Bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bah, ça m'est venu d'éliminer, me mettre du point de vue du méchant, vraiment. Purement diabolique, on va dire ça comme ça. Et je voulais écrire l'histoire de quelqu'un qu'à la base, on ne pourrait que détester parce qu'il est tout le contraire de ce qu'on attend, d'un être vivant. Mais normal, puisque c'est une créature et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs et tout ça, comme le disait Cassandra. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, même s'ils ont été humains à une époque. Ils ont renié tout ça, ils ont été, on va dire, formatés à un certain mode de pensée. Et bref, je voulais, c'est vraiment quelque chose, je lisais l'urban fantasy et tout ça, on découvrait au fur et à mesure que les héroïnes étaient humaines, mais finalement pas, finalement elles sont hybrides et tout ça. Et je me suis dit, si on découvrait à la base direct le monstre qui est en l'héroïne et on faisait le chemin inverse, qu'est-ce que ça donnerait? Alors.
Et vous, Cassandra O'Donnell, comment avez-vous créé ce personnage doté de pouvoir, cette sorcière de guerre?
Ah, mais moi, toute petite, je jouais avec une sorcière. Bon, je sais pas, à 6-7 ans, je jouais avec mes copines, on faisait des cercles, on mettait des pentacles, on s'éclatait. Non, la sorcière, ça a toujours été le personnage qui me fascinait déjà tout enfant. Et j'étais comme je suis une grosse lectrice de fantasy traditionnelle, la sorcière de guerre, et donc celle qui maîtrisait les éléments, ça me semblait pas mal. Et pour le coup, c'est un peu une enfant à la fois de la fantasy et de l'urban fantasy. C'est cette espèce de mélange, de mix qui fait un petit peu la particularité de la série. Mais pour le coup, ce personnage, alors après, évidemment, quand on construit un personnage, j'ai pris pratiquement tous mes défauts, je les ai poussés à l'extrême. En gros, c'est ça.
D'accord, parce que vous étiez passionné par la... Vous rêviez de sorcière, mais vous auriez pu, je ne sais pas, choisir par exemple une sorcière comme Samantha en fronce du nez.
Ah non, mais moi j'ai toujours été du côté d'Andorra, pour être très clair. Pour moi, une sorcière qui ne sert pas de ses pouvoirs, c'est pas intéressant du tout. Et quand j'étais petite, souvent quand on essayait de jouer aux sorcières, on lançait des sorts pas très sympas, mais ça marchait pas. Mais non, mais pour le coup, c'est vrai que le côté sorcière, je me suis toujours beaucoup intéressée. J'ai lu beaucoup de contes, de légendes, etc. Sur les sorcières, sur Salem, sur plein de choses. Ça a toujours été intéressant. Et pour le coup, ça se mélangeait pas mal avec la fantasy et une guerrière des éléments. Pour moi, c'était vraiment ce que j'avais envie de créer comme personnage. Et puis effectivement, le caractère, après les traits principaux, de caractère, voilà, on prend un petit peu de soi en général dans nos premières héroïnes. Je pense qu'on change après. Je pense qu'on change après, mais dans nos premiers romans, il y a beaucoup de nous, je pense.
Quant à vous, Alexandra et lui, vous nous présentez à travers vos différents romans là, toute une palette de personnages féminins. Comment les créez-vous? Parce que chacune, bon, même si elle a un fond qui a... Elles se ressemblent toutes, vous l'avez décrit, des femmes qui essayent d'évoluer, etc. Mais comment déterminez-vous à chaque fois comment elle sera? Parce qu'il y en a qui sont des démons, il y en a qui sont totalement humaines, il y en a qui sont des fées, etc. Comment déterminez-vous à chaque fois quels seront les pouvoirs ou l'absence de pouvoir de chacun de vos personnages féminins?
Usually I choose powers that are also a weakness for them. I mean, if like with Viper, Shay's half demon, but she's a demon that's an aphrodisiac for vampires, so she's hunted. So it's a power, but it's also a weakness. So then it's learning to accept who they are, accept their powers, and to grow into the powers and to use them. So usually I start off with an idea of how I want her to grow, and then I start to go back to who would that make her? How would she be before she became the powerful woman ready to kick ass? Who was she before? And so I start with that evolution and to find yourself through us, because we all have weaknesses, we all have our strengths, and sometimes it's finding and turning a weakness into a strength or just developing a strength.
Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'association des pouvoirs et de la faiblesse. Dans le cas de Viper, par exemple, Shay est une demi-démon, mais ce sont des pouvoirs qui sont des forces pour elle, qui sont assorties de faiblesse, en ce sens qu'elle est une sorte d'aphrodisiaque pour les vampires. Et donc, je trouve ça intéressant que la force contienne un élément de faiblesse. Et ce que je voulais montrer, c'est comment elles doivent s'accepter telles qu'elles sont, ces personnages, comment elles doivent s'accepter telles qu'elles sont et comment elles doivent finir par utiliser aussi leur pouvoir. Et comment je commence, eh bien, c'est une question d'évolution, parce que je commence par voir le personnage dans sa version complétée, sa version finie, et après je me demande comment elle a débuté. Donc, j'aime bien examiner l'évolution, c'est ce qui m'intéresse. Donc je commence par la fin et je fais en fait une image avant et après, c'est-à-dire... Elle était forte à la fin et elle devait donc être faible au début, et comment elle a acquis sa force et comment elle a fini par s'accepter elle-même et comment elle a fini par utiliser ses faiblesses. Donc chaque force porte en elle une faiblesse.
Et lorsque vous commencez un nouveau roman, parce que vous avez dit que vous êtes quelqu'un, je crois, de très organisé, qui fait le plan avant, est-ce que... Et en plus, j'ai appris qu'Alexandra était un écrivain compulsif qui travaille, c'est énorme. Mais lorsque vous commencez à réfléchir à un nouveau roman, est-ce que vous pensez d'abord, vous créez d'abord votre héroïne et ensuite vous créez le personnage masculin qui donnera le titre au roman, ou est-ce que c'est l'inverse?
I usually choose the male character first, and he's. I have a full idea of the clan. I've already built the clan of vampires, and so part of my book is about the interaction with the males and how they interact with each other, their friendship, and how it changes as the women become a part of it. So I start with the males, but. In the end, the book is always the journey of the female. So she's always the lead in the stories. But I usually start with the male, and then I decide how I want to torture him. And then I make my woman. I'm a mother of two boys.
Je commence toujours par l'homme. Et en fait, comme je suis la maman de deux garçons, après je crée la femme qui va venir torturer l'homme. Donc je choisis tout d'abord le personnage de l'homme. Et donc j'ai une idée très très précise de sa place dans le clan des vampires que j'ai créé. Donc ça, pour moi, c'était très intéressant de créer ce clan et de décrire ensuite les liens entre ces hommes, leurs relations et l'évolution de leurs relations en fonction des femmes qui entrent dans la vie de ces vampires Donc après avoir choisi le personnage de l'homme, donc je me penche sur l'évolution de la femme. Donc même si le livre a pour thème central un homme, ce qui est le plus important dans le livre, c'est l'évolution de la femme. Donc je choisis, comme j'ai dit tout à l'heure, je choisis le personnage de l'homme et après je choisis comment je vais le torturer et quel genre de femme peut mieux le torturer.
Et Alexandra est la mère de deux garçons, à quel âge vous faites. Ah, et Cassandra O'Donnell en a trois. Oui, mais vous aimez. Alors, et ça va être la conclusion, parce que le temps passe très très vite avec vous quatre, mesdames. Donc, vous avez créé des femmes extrêmement fortes au début, mais enfin. Cassandra O'Donnell a commencé à aborder un petit peu le sujet, Marika aussi. Alors, est-ce qu'on peut espérer, nous, pauvres hommes, que vos tueuses vont évoluer et se radourcir un petit peu dans les volumes à venir ?
Ouais, tu as déjà un petit peu la réponse dans le 3, mais oui, elle va. Ça ne va jamais devenir un gentil petit agneau tout doux, elle va garder son caractère, qui, je le rappelle, n'est pas le mien. Mais oui, elle va s'adoucir et il va lui arriver aussi des trucs plus doux.
Pour le coup, pour Rebecca, disons que les hommes ne sont pas des victimes hein, dans Rebecca. Sont eux-mêmes, elles fréquentent quand même des hommes très puissants et très dangereux. Donc effectivement, se radoucir, je ne sais pas si ce sera vraiment très utile à côté d'un vampire comme Raphaël, si vous voulez.
Mais il est amoureux.
Amoureux, mais pas aveugle.
Et donc, comme je l'ai dit, on a créé des héroïnes qui découvrent que finalement, devenir un peu plus humaine, c'est pas une faiblesse. Donc, je pense qu'il y a ma réponse là-dedans.
Alexandra.
Usually my journey lasts just one book, so the evolution usually happens fairly quickly. So, and he gets the girl at the end, so he wins.
Dans mon cas, l'évolution est un petit peu plus rapide parce que l'évolution se produit dans le cadre d'un roman et il y a un happy end et le gars à la fin et la fille, et ben, ils sont ensemble et donc voilà, vous avez votre réponse là-dedans.
Bon, bah, mais messieurs, nous qui sommes très minoritaires dans cette assistance, nous avons quand même un tout petit peu d'espoir et on a peut-être le temps pour une question. Je sais qu'il y a un certain nombre de lectrices et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui ont été dites qui vous ont peut-être donné envie de réagir. Bon, je ne suis pas étonné, les femmes de l'assistance sont extrêmement satisfaites, les hommes sont complètement abattus. Dans ce cas-là, Ever a très bien tourné, a beaucoup tourné, comme vous m'avez dit. Oui.
Il faut quand même réagir, on n'est pas tous des féministes acharnées, je veux dire, on aime bien les mecs, hein. Il n'y a pas de souci, on n'est pas non plus castratrices. Hein.
Oui, surtout si les hommes continuent de payer l'addition au restaurant.
Ah, moi là-dessus, je suis très vieux.
Très bien, mais écoutez, je crois que sur cette conclusion, nous allons pouvoir remercier nos quatre auteurs ici présents.